Bien, bonjour à tout le monde. Et je vais un petit peu adapter mon exposé parce qu'on a averti sur la question. Donc, je vais devoir sauter l'un ou l'autre chapitre pour ne pas vous ennuyer à l'heure du déjeuner. Alors, je vais me permettre de rappeler quand même quelques étapes historiques parce que aujourd'hui, 21 janvier 2016, c'est une réforme, celle qu'on nous annonce, qui est en fait le résultat d'un long processus. Vraiment d'un très long processus qui a commencé à la fin des années 90. C'est les conséquences de l'affaire Dutroux, bien sûr. Et quelques étapes, création du Conseil supérieur de la justice. Je vous invite peut-être à relire les textes fondateurs. Vous allez voir que déjà on parlait de certains éléments. Les mandats avant des chefs de corps. Et puis, ça s'est un peu emballé au début des années 2000. Il y a eu le plan Thémis de la ministre Anquelinx. On a introduit l'évaluation des chefs de corps. Il y a eu la réforme du statut personnel de l'ordre judiciaire en 2007. Il y a eu la même année la création de l'Institut de formation judiciaire. On a créé aussi la commission de modernisation de l'ordre judiciaire. Et le plan Thémis qui a été adopté donc sous le gouvernement Verhofstadt. 2 prévoyait déjà une série d'éléments que nous retrouvons aujourd'hui. Le transfert de compétences, c'était déjà prévu. Ressources humaines, frais de fonctionnement, bâtiments. La première version du plan Thémis qui a été soumise à la consultation de la conférence permanente des chefs de corps, puisque c'était à ce moment-là l'organe qui était le plus représentatif au sein de l'ordre judiciaire, a rendu un avis très sévère sur la première version du plan Thémis et qui condamnait notamment la gestion commune, puisqu'on prévoyait à ce moment-là que l'ordre judiciaire gérerait pour le siège et pour le ministère les ressources, sans faire de distinction. Et donc, il y a eu une revendication très forte pour qu'on crée les deux piliers. Et donc, dans la version numéro 2, on a effectivement fait droit à cette demande et on a créé les deux piliers, siège et ministère public. Et enfin, élément important, la gestion était réfléchie au niveau du ressort. Donc on ne descendait pas jusqu'au niveau des arrondissements, mais on estimait qu'à ce moment-là, le ressort était le niveau le plus adéquat. Viennent ensuite les ministres Van Deurzen et De Clercq qui poursuivent leur réflexion et le ministre De Clercq va porter le plan Atomium, rappelez-vous. Et le gouvernement, en réalité, est tombé la veille du Conseil des ministres au cours duquel on devait adopter le plan Atomium. Voilà, ça c'est le hasard de la vie politique belge. Et donc, tout était à refaire, ce qu'a fait la ministre Turtenbaum. Et là, elle a repris la plume. Et puis, elle nous a livré quelques lois, parmi lesquelles la loi du 1er décembre sur la mobilité et surtout la loi du 18 février 2014 sur la gestion autonome pour l'organisation judiciaire. Donc, nous sommes bien là dans cette matière. Je passe le chapitre sur les lois Turtenbaum, vous les connaissez comme moi, et j'en viens directement à l'action du ministre Guéhez. Le ministre, donc, va, dans sa note de politique générale du 10 novembre 2015, donc c'est récent, nous donner vraiment les lignes directrices de la réforme qu'il va présenter au gouvernement très prochainement. Il y a, tout d'abord, je dirais, des confirmations. 1. On confirme la gestion autonome. 2. Stand-alone de la Cour de cassation, qui va donc voir son entité parquet près de la Cour et le siège travailler ensemble, c'est une seule entité, et son statut va se rapprocher du statut de la Cour constitutionnelle ou bien du Conseil d'État. Donc la Cour de cassation ne va pas vraiment, restera dans le département de la justice, mais n'entre pas dans le scope des collèges. Ça, c'est un élément important. Et donc là, il y aura tout un travail avec la Cour. 2. 3. Existence des collèges est confirmée, et notamment les services de soutien qui sont chargés d'appuyer les collèges dans leurs actions. Le transfert des compétences, les mêmes, ressources humaines, frais de fonctionnement avec les frais de justice en matière pénale. C'est un élément important, les bâtiments, l'informatique. Le rôle des collèges est également conforté dans la répartition des moyens entre les entités.
Et enfin, on aura recours à la convention de gestion entre le ministre de la Justice et les collèges. Ça, ce sont les points de confirmation. Et puis, il y a des, j'appellerai des innovations. Tout d'abord, on va créer, au sein de l'ordre judiciaire, un service commun qui va s'appeler le Centre de Services de l'Ordre Judiciaire, CSOJ, administré par les deux collèges et dirigé par un gestionnaire général, dit-on. Ça, c'est une innovation importante. Donc, il y a un service commun. Il faut quand même se rappeler que dans Atomium, il y avait déjà l'idée d'un service commun. Donc ici, le ministre Gaines reprend la formule portée par le ministre De Clercq. Deuxième élément important, la formation en fera partie. Donc on va toucher à la loi de janvier 2007 sur l'Institut de formation. On ne sait pas comment, on va voir, mais la formation fera partie donc de ce service commun. Trois, on ne parle plus de service de soutien, mais de service de gestion. Donc, près, les deux collèges auront chacun un service de gestion dirigé par un gestionnaire général. Donc, nous avons déjà trois gestionnaires chargés de diriger des équipes de gestion. Alors, le niveau ressort est cité dans la note de politique générale, mais, et ainsi que dans le plan justice, mais on y parle, c'est une formulation un peu curieuse, que ce soit en néerlandais ou en français, regroupement pour des affaires de gestion déterminée. Donc c'est assez flou, mais ce qu'on peut retenir, c'est que le niveau ressort revient vraiment, et je dirais peut-être même au premier plan, dans la gestion des affaires de l'ordre judiciaire. Et je pense que ce niveau pourrait être retenu comme le niveau adéquat, pertinent, pour gérer une série de questions liées à des frais de fonctionnement. Influence du plan Thémis, influence du plan Atomium, c'est assez simple, 5 ressorts, donc ce sont des équipes limitées. Donc, en résumé, au niveau de la gestion, après lecture du plan justice et de cette note de politique générale, on peut retenir le schéma suivant. Alors, ça se complique un petit peu, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Nous avons donc le ministre de la Justice et le SPF Justice, son administration. Le ministre va conclure une convention avec chaque collège, d'accord ? Les collèges ont un service commun, plus chacun un service de gestion. Ressort, arrondissement. Et donc nous allons avoir une collaboration entre le ministre de la Justice, son administration et le service central, le CSOJ, mais également avec les ressorts et également avec les arrondissements. Et une des matières naturellement clés sera l'informatique. J'en reparle tout à l'heure, mais c'est une des matières clés. Donc collaboration, donc ce n'est pas une coupure, ce n'est pas limité à une convention où on donne des moyens et puis il y a une reddition de compte. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et puis, élément important, on a recours à des spécialistes de la gestion, les gestionnaires généraux ou le gestionnaire général. Alors, le financement, le ministre écrit qu'il est caractérisé par une stabilité, des garanties seront données et des incitants seront prévus. Alors, il y a un système, je dirais, à étapes, puisque la convention va prévoir une enveloppe de moyens. On parle, si on parle budget, ça sera, on parle de l'ordre de 1 milliard d'euros, donc c'est très important comme budget. Une enveloppe fixée dans la convention de gestion. Alors, les premières étapes du financement, du partage de cette enveloppe sont les suivantes. 1. On va d'abord financer le service commun. Donc, rappelez-vous, les deux collèges, le service commun entre eux, on va d'abord financer le service commun. Ensuite interviendra la répartition entre les deux piliers, entre le siège et le ministère public. Et là, la clé de répartition, jusqu'à présent citée, c'est 2/3, 1/3. 2/3 pour le siège, 1/3 pour le ministère public. Ça fait débat, parce que le ministère public estime qu'il n'a pas assez avec 1/3. Donc, Il y aura là encore un calcul plus précis. Et puis, que vont faire les collèges? Il y a tout d'abord le siège. Lui va prélever ses besoins pour assurer le service de gestion. D'accord? Le ministère public fait de même, mais il doit rencontrer les besoins du parquet fédéral et de l'OCSC, l'Office central de saisie et de confiscation. Donc il y a là encore un partage. Et c'est seulement après qu'il y a une répartition vers les ressorts. Donc autrement dit, on finance tous les organes de gestion, communs et non communs, et c'est seulement par la suite qu'on va répartir les enveloppes vers les ressorts. Et là, le ministre dit, le financement reposera sur une part variable et une partie fixe. Donc il y aura une sorte d'indemnité de base, et la partie variable, eh bien, elle le sera en fonction de certains paramètres, input, output, sortie, production, donc les décisions rendues, mais également mesure de la charge de travail, objectif fixé. Dernière étape, j'en étais au ressort, il y a la répartition vers les entités, donc vers les arrondissements. Et là aussi, il y a un mécanisme de répartition qui va reposer sur estimation des besoins, mesure de la charge de travail, normes de temps nationales, et le ministre parle aussi de bonus-malus. Donc, prime à l'encouragement, à déterminer qu'est-ce qu'on entend par bonus-malus, naturellement, qu'est-ce que ça veut dire. Mais la qualité est citée. Alors là, après, je viendrai toutes les questions que je me pose par rapport à ces paramètres, mais vous voyez que c'est quand même un système assez complexe où on descend dans une répartition des moyens, et donc il y aura de grosses discussions par rapport à ces répartitions, parce que déjà, pour couvrir les besoins du service central, puis les services de gestion, le parquet fédéral pour le ministère public, l'Office central de saisie de confiscation, enfin, c'est assez compliqué. Bien, qui dit financement, dit, ben, naturellement, reddition de compte, contrôle. Et ça, c'est une question qui reste vraiment très, très ouverte. Alors, le contrôle sera exercé, je dirais, trois niveaux. Un, le ministre de la Justice va exercer un contrôle avec son administration, donc avec le SPF Justice. Deux, on parle d'un commissaire du gouvernement qui siégera dans les réunions des collèges. Alors, commissaire du gouvernement, ben, c'est connu, dans la loi de 2007 sur l'institut de formation, il y a deux commissaires du gouvernement qui sont prévus, avec des compétences de recours. Le recours, ici, vraisemblablement, c'est peut-être un peu curieux dans le système, mais c'est le ministre qui devrait le traiter aussi. Donc, ça pose peut-être une question à ce niveau-là. Et enfin, troisième contrôle, c'est la Cour des comptes. Ce sont les trois contrôles. Ministre de la Justice, commissaire du gouvernement, Cour des comptes. Cour des comptes, cela veut dire un contrôle a posteriori. A posteriori. Le contrôle le plus immédiat est exercé par le commissaire du gouvernement. Il faudra voir comment, quelles compétences on va lui donner. Est-ce que c'est des compétences qui ressemblent à celles d'une inspection des finances, par exemple, qui rend des avis en opportunité, en légalité, ou bien est-ce que l'opportunité ne sera pas dans ses compétences? Ce sont des choix naturellement extrêmement importants parce que ça permet d'orienter et aussi de renforcer le rôle du commissaire du gouvernement. Et puis il y a un contrôle plus périodique, je dirais, peut-être annuel, par le SPF pour le ministre de la Justice, notamment vérification des comptes. Alors, qu'il y ait un contrôle, c'est tout à fait normal, naturellement. On est dans une hypothèse de responsabilisation, donc c'est logique, on doit rendre des comptes, ça, et c'est totalement étranger à l'activité judiciaire. Ici, on rend des comptes sur l'utilisation de moyens, ni plus ni moins. Alors, il y a le Conseil supérieur de la justice. Alors, ça, c'est quand même, c'est un peu compliqué, me semble-t-il, parce que si on relit la Constitution, l'article 151, paragraphe 3, sixièmement et septièmement. Le sixièmement dit, le Conseil supérieur de la justice est compétent pour l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général. Donc, des avis, des propositions, nous savons tous qu'ils ne sont pas contraignants, de ces propositions, et sur l'organisation de l'ordre judiciaire. Le septièmement, lui, dit, est compétent pour la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne. Alors, attention, la notion de contrôle interne ne doit pas être confondue avec le contrôle dont je parlais. Ce sont des choses différentes. Alors, contrôle interne, il y a de la littérature, il y a des spécialistes dans la salle, donc je vais simplement vous donner une définition qui ne devrait pas, je pense, poser trop de difficultés. Contrôle interne, c'est un processus qui permet de s'assurer que les opérations de l'institution ou de l'entreprise se déroulent en appliquant des bonnes pratiques, notamment celles concernant le management et le fonctionnement de ces principaux processus. Donc ce sont surtout des bonnes pratiques. Ce n'est pas le contrôle dont je parlais, ce n'est pas le contrôle de la Cour des comptes, ce n'est pas le contrôle du commissaire du gouvernement. C'est donc autre chose. Alors, naturellement, j'étais très attentif parce que dans sa note de politique générale, le ministre ouvre la porte à une réflexion sur de nouvelles compétences pour le Conseil supérieur de la justice. Il parle d'une extension des compétences. Alors, est-ce un nouveau rôle ? Alors, si c'est un nouveau rôle, comment le concilier avec la Cour des comptes, le rôle de la Cour des comptes, le commissaire et le rôle du ministre de la justice ? Serons-nous en présence d'un contrôle a priori, a posteriori? Ça, c'est une question qui est vraiment ouverte et qui n'est pas simple. Vraiment pas simple du tout. Et je pense que là, il y a encore du travail pour mettre au point, d'une part, le Conseil supérieur de la justice dans ses compétences. C'est un organe de contrôle externe. Donc on peut effectivement renforcer ses compétences, et je pense que c'est le bienvenu, parce que c'est vrai, on se pose beaucoup de questions, enfin je vous parle très librement, sur le travail fourni par la commission d'avis et enquête. Ils rendent des avis, ils rendent des propositions, elles ne sont pas contraignantes, enfin tout le monde s'en fout un petit peu, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu dommage. S'il y a bien une, parmi les commissions, c'est celle-là à propos de laquelle on se pose le plus de questions. Donc c'est vrai que ce serait une bonne chose de revoir ses compétences et peut-être de donner des compétences plus contraignantes à cette commission. Alors, j'ai parlé du Conseil supérieur, de certains acteurs. Il y a le rôle du SPF Justice. Alors, moi, je ne vous cache pas que j'ai lu avec plaisir la note politique générale du ministre, et je me suis rendu compte qu'il considérait qu'il fallait garder un rôle pour le SPF Justice. Parce que dans toutes les réflexions depuis un an, et Jean-Louis et moi on participe à beaucoup de réunions, on ne parlait jamais du SPF Justice. Jamais. Donc, est-ce qu'on coupait vraiment le lien ? Donc on fait une convention, on verse le montant sur un compte et puis c'est terminé, on ne fait rien. Non. Il y a un rôle pour le SPF Justice. Et donc, il y a un rôle, un, dans la mise en œuvre de la réforme, ça, évidemment, mais il y a aussi un rôle pour l'avenir, les relations futures avec l'ordre judiciaire. Et enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais cette réforme va avoir un impact considérable sur les structures du SPF Justice. Vous allez comprendre. Tout d'abord, dans la mise en œuvre, son rôle sera majeur, puisqu'on va tout préparer pour le ministre. Dès à présent, c'est ce qu'on a commencé à faire, naturellement. Notamment, on va devoir rédiger avec lui la première convention de gestion. Nous avons une petite expérience, je vous en parle tout à l'heure aussi. On va régler la question du transfert des compétences. Parce que, quand même, quand on dit ressources humaines, quand on dit frais de fonctionnement, quand on parle informatique, enfin, on doit préciser, vous allez voir. Transfert de personnel du SPF Justice vers l'ordre judiciaire. Ça aussi, on va transférer des compétences, mais on va également transférer du personnel, qui va donc demain travailler à l'ordre judiciaire, pour l'ordre judiciaire. Et enfin, l'informatique, qui va devenir une matière, je qualifierais, partagée. Autrement dit, le SPF va régler certaines questions et l'ordre judiciaire s'occupera d'autres questions, mais ce sont des questions qui sont vraiment intimement liées. Alors, dans les relations futures, je dirais qu'elles seront fortes, régulières et indispensables. Parce que, arrêtons-nous deux secondes, le ministre et son équipe, le cabinet, c'est une quarantaine de personnes qui sont sur toutes les matières justice, c'est une équipe qui n'est pas capable de porter la convention dans son exécution, dans la vérification. Donc c'est l'administration qui va devoir préparer tout ce travail pour le cabinet et son ministre et le ministre de la Justice. Donc c'est vraiment un travail de soutien du ministre de la Justice dans les relations avec l'ordre judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce travail de soutien? Ça va se traduire par la détermination de l'enveloppe, ça va se traduire par la rédaction de la convention, je l'ai dit, le contrôle et l'exécution de la convention, et également l'évaluation du modèle de gestion. Ce sont ces éléments-là, ainsi que, si le recours arrive chez le ministre, le traitement du recours en termes de préparation, donc recours des commissaires. Et enfin, approbation des comptes aussi, pour permettre la conclusion d'une autre convention, etc., voire des amendements. Enfin, il y a encore d'autres tâches. Il y a toute l'élaboration des normes législatives, fédérales et internationales, qui concernent l'ordre judiciaire. Il y a également la politique criminelle. Vous savez que la politique criminelle est déterminée par le ministre et le collège des procureurs généraux, mais à la Direction générale législation, nous avons également un service de politique criminelle qui travaille pour le ministre, qui soutient le ministre dans sa relation avec le collège. Cela continuera d'exister, naturellement. Donc, nous continuerons à avoir un service de politique criminelle. Et puis, il y a d'autres questions. Quand on parle de la gestion des ressources humaines à l'ordre judiciaire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est nous, SPF Justice, ou bien est-ce que c'est l'ordre judiciaire qui va préparer les arrêtés royaux de nomination des magistrats, par exemple? C'est très administratif. Il y a toute une procédure, mais ce sont des actes qui sont signés par le ministre et qui sont présentés au roi. Donc ça a du sens, naturellement, que l'administration du ministre prépare ces arrêtés royaux. Donc, il y a là encore tout un core business très important. Alors, il y a l'informatique. Il y a l'informatique. Alors, c'est un point de discussion, quand même, assez difficile avec les collègues des collèges. En tout cas, ce que je vous dis ici, c'est ma position. Donc, c'est vraiment une compétence partagée, gestion commune. Pensons à l'informatique, non pas à un PC, mais à l'infrastructure, au réseau. J'imagine quand même que nous n'allons pas construire un réseau ordre judiciaire comme une île déserte dans un océan. Pensons à l'infrastructure, les serveurs, le cloud. On ne va quand même pas non plus là faire quelque chose de spécifique. Donc nous allons rester vraiment dans un système fédéral avec de la sécurité, avec des solutions pour le hardware, pour les sources authentiques, pour les achats groupés, naturellement. Pensons à l'achat de matériel, mais il y a aussi les licences. Vous savez que l'État fédéral, par exemple, développe de plus en plus des achats communs. Donc, pour tous les départements. Si on va demain, deux grands départements comme la justice et les finances négocier avec Microsoft, 50 000 licences, bah, naturellement, si demain l'ordre judiciaire va négocier 2600 licences, comprenez bien qu'on ne va pas être dans la même catégorie de prix. Donc, il y a un intérêt à continuer à travailler ensemble sur ces questions-là. Mais il faut aussi garantir l'autonomie du pouvoir judiciaire dans cette matière de l'informatique et laisser le champ à des demandes légitimes de la part de l'ordre judiciaire. Ça peut être des applications business, ça peut être la gestion de droits, ça peut être l'accès à des réseaux, etc., etc., des choix de matériel aussi. On peut très bien dire, nous avons besoin de tel type d'appareil, on définit le type d'appareil, et puis après, on s'inscrit dans un grand marché et on essaie d'avoir le meilleur prix. Donc, ce sont ces questions-là. Alors, tout à l'heure, je disais, les structures du SPF risquent d'être impactées. ça sera certainement le cas. Notre direction générale organisation judiciaire sera transférée à l'ordre judiciaire. Donc là, c'est 150 personnes actuellement qui partiront demain, sans discussion, vers l'ordre judiciaire. Et puis, il y a toutes les nouvelles compétences qui vont apparaître avec la conclusion de cette convention, et nous allons devoir l'intégrer dans nos propres services. Et ce n'est pas anodin. Par exemple, pour le financement, nous allons devoir prévoir des contrôles croisés, un arbitrage, des discussions sur les temps nationaux, sur la mesure de la charge de travail, sur les indicateurs, sur les paramètres, comment on les prend en considération, est-ce qu'il y a des corrections à introduire, etc. Cela nécessite naturellement, de part et d'autre, des équipes. Donc, chez nous, nous allons aussi devoir créer des équipes. Alors, bon, je vais aborder la question, nouveau souffle ou cadeau empoisonné. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est que le département de la justice traverse une période tourmentée, hein, quand même. Hier, c'était le départ des maisons de justice vers les communautés. Demain, le corps de sécurité qui s'occupe du transfèrement des détenus va quitter le SPF Justice et aller vers la police fédérale. Demain aussi, c'est la gestion autonome pour l'ordre judiciaire. Après-demain, qui sait, une 7e réforme de l'État avec peut-être encore un impact sur la justice, qui sait. Et puis, le SPF, comme toutes les administrations fédérales en ce moment, voit son fonctionnement se transformer. Ainsi, nous devons signer prochainement un contrat d'administration, qui sera notre premier contrat d'administration dans quelques ministres, pour une période 2016-2018. Et cette contractualisation, parce que là aussi, il y a une contractualisation avec notre ministre, va nous imposer des nouvelles obligations en matière de reddition de comptes, en matière de suivi de projet, en matière d'objectifs à atteindre, etc., etc. Donc nous sommes, en fait, nous, SPF Justice, dans le même processus de changement que l'ordre judiciaire qui va signer aussi une convention avec des objectifs, avec des résultats à atteindre, avec des choses négociées. Naturellement, chez nous, c'est un peu différent parce que notre patron, c'est le ministre de la Justice de manière indiscutable. Nous sommes une administration de l'exécutif, il n'y a pas la moindre discussion. Donc, la négociation reste quand même un petit peu tronquée. Un peu tronquée. Rien que. Alors, moi, je vois cette autonomie de gestion comme une opportunité incroyable pour l'ordre judiciaire. Et je crois qu'il est vraiment temps de quitter la gestion paternaliste que nous connaissons depuis 1830 et qui voit le ministre de la Justice et son administration décider de ce qui est bon et nécessaire pour l'ordre judiciaire. Parce que c'est comme ça que cela fonctionnait, ce qui est bon et nécessaire pour les cours et tribunaux. Je crois qu'il est temps d'entrer dans un autre modèle où la responsabilisation existe. Et je pense, et je trouve que c'est séduisant de pouvoir poser des choix, poser des priorités, gérer ses propres moyens, rendre des comptes aussi naturellement. C'est logique, comme je le disais tout à l'heure. Alors pour y entrer pleinement, c'est certain, il faut des moyens. Il faut des moyens. Et il faudra se former aux nouvelles responsabilités. Ce n'est pas mince. Il faudra recruter de nouvelles expertises que nous n'avons pas aujourd'hui, que l'ordre judiciaire n'a pas non plus. Je pense naturellement à tout le travail sur les critères, toute cette évaluation du travail, la mesure des temps, etc. Qui va faire cela? Et donc des moyens complémentaires sont nécessaires. Il faudra aussi organiser le change management, accompagner les personnes, les acteurs sur le terrain, parce qu'on ne peut pas ne pas le prévoir. C'est vraiment essentiel, sinon il y a un risque majeur de fermeture, de résistance, d'opposition. Et donc, ça, c'est vraiment indispensable. Alors, moi, je vois ce moment comme palpitant, parce qu'on est en train de construire quelque chose de nouveau. On part presque d'une feuille blanche, et on essaye de construire un modèle qui devrait, en tout cas, donner de meilleurs résultats que celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai que ça peut paraître complexe. Sur le financement, il y a pas mal de discussions à avoir, mais ce qui se fera c'est que cette mutation, elle sera progressive. Il est impensable qu'un Big Bang intervienne. C'est vrai qu'il y aura une date d'entrée en vigueur, donc on va basculer. Le ministre dit 1er janvier 2018, on verra si le timing est respecté, mais ça, il faudra y aller progressivement. Prenons par exemple l'exemple du financement, donc lié au résultat, au nombre de jugements et d'arrêts prononcés. On peut déjà se poser la question, quel type d'arrêt, quel type de jugement, la réouverture des débats, etc., les expertises, que sais-je. Alors, pour arriver à prendre en compte tous les paramètres, il va nous falloir des outils statistiques. Il faudra des machines, que les machines tournent. Et ces machines vont livrer des chiffres, vont livrer des résultats. Mais ces résultats, ces chiffres, il faut les analyser. Donc on a besoin d'analystes, de gens qui sont capables naturellement de lire les résultats, de les interpréter, et il faudra des analystes de part et d'autre pour qu'il y ait une vraie discussion et qu'on arrive vraiment à « Ok, nous sommes d'accord sur tel paramètre, nous allons l'interpréter de cette manière-là. » Il faudra penser à des contrôles croisés. Il faudra penser, comme je le disais, à une procédure d'arbitrage. Si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Il faudra prévoir du temps pour tout cela. Mais ça, aujourd'hui, nous avons des outils informatiques qui donnent des chiffres. Mais ces outils n'ont jamais été pensés, orientés, avec une telle finalité. Donc, chaque mouvement de dossier est encodé. Donc, il est visible. On sait. Mais on n'a jamais rien attaché comme conséquence à tous ces mouvements. On n'a jamais rien tiré comme conclusion. Or, demain, c'est ce qu'on doit faire. Alors, comment on va faire ? Comment on va faire ? Et pour ça, je crois qu'il faut du temps et il faut de l'expertise. Et temps et expertise, c'est les deux conditions sine qua non pour que le système fonctionne. Sinon, ça n'ira pas. Alors, souvent, on me dit, oui, mais enfin, M. Janssen, les moyens sont insuffisants, le sous-financement est tel. Alors, Jean-Louis, tu pourras en attester, le ministre de la Justice a toujours parlé d'un financement complémentaire. Je ne vais pas citer les chiffres, mais il est vraiment important. Il l'a dit et répété au collège. Il y aura une discussion politique sur les textes, mais il y aura surtout une discussion politique sur des montants supplémentaires pour l'ordre judiciaire pour lui permettre d'entrer dans le nouveau modèle de gestion. Il a dit également qu'il y aurait des budgets complémentaires pour faire du change management pour l'ensemble des acteurs concernés par la réforme, tant pour l'ordre judiciaire que pour le SPF Justice. Alors, attendons de voir. La discussion, elle est toute proche, puisque c'est le pot-pourri 4 qui devrait être discuté d'ici quelques semaines au sein du gouvernement. Alors, naturellement, risque pour le budget. Un autre risque, c'est aussi le passage d'un modèle à un autre avec une multitude de choses à faire, avec des équipes réduites. On doit faire des économies, donc on doit mettre en place des processus qui nous permettent de réaliser des économies. On doit revoir les processus de travail, notamment, souvent. Il faut prévoir de nouveaux processus, ce dont j'ai parlé. Et puis, il faut faire face à plusieurs projets de changement. Il y a la gestion autonome, il y a l'apprentissage de nouveaux métiers pour les chefs de corps. Ils vont devoir apprendre de nouveaux métiers. Ce n'est pas parce qu'on a un gestionnaire général à côté de soi qu'on est dispensé d'apprendre toute une série de techniques. Il y aura l'implémentation de nouveaux outils informatiques. Il y a tous les projets i quelque chose, e-déposite, i etc. Il faut les assimiler. Les acteurs de terrain doivent les assimiler. On a également le projet FEDCOM. C'est un projet fédéral qui vise à moderniser la comptabilité de l'État. C'est un projet qui a un fort impact sur les acteurs de terrain impliqués dans la gestion financière. Ce sont des gens qui vont voir leur processus et leur méthode de travail vraiment évoluer. Je pense aux comptables, mais je pense aussi à tous ceux qui font des engagements et des liquidations dans les greffes, dans les autres services. Donc, il y aura là vraiment un grand impact. Donc, ce sont des risques majeurs, naturellement. Si nous avons ce financement complémentaire, on peut les appréhender avec quand même, je ne vais pas dire avec sérénité, mais calmement. et surtout si la réforme s'inscrit, vraiment ça je pense que c'est très important, s'inscrit dans un modèle évolutif. Alors, les Pays-Bas, c'est le modèle qui a inspiré le ministre Gaines, mais le modèle hollandais, c'est aussi le résultat d'une très longue évolution de 25 années. Donc nous avons la chance de voir là, à côté de nous, un modèle qui a évolué. Il y a des enseignements à tirer, c'est ce qu'on fait. Même pour nous, SPF Justice, pour nos structures, on s'intéresse naturellement au ministère de la Justice hollandais pour voir comment eux font, comment travaillent tous ces critères, etc. Voilà. Alors, convaincu que c'est une opportunité, certainement. C'est vraiment une opportunité qui s'ouvre à nous. Comme j'insiste très fort, résultat d'un lent processus évolutif qui a commencé il y a 15 ans, mais je pense que c'est un nouveau souffle. C'est vraiment un nouveau souffle. Et moi, je suis impliqué dans toutes ces questions depuis maintenant un peu plus de 12 ans, et il y a quand même une évolution qui est incontestable. Je veux dire, les chefs de corps de 2016 ne se comportent pas, ne travaillent plus de la même manière qu'en 2003, en 2004, en 2005. Il y a vraiment une grande évolution, et je trouve vraiment que c'est une fantastique occasion qu'il faut saisir. Et vous avez, vous, membres de l'ordre judiciaire, une chance énorme, parce que vous êtes membre du troisième pouvoir, et vous allez signer une convention, et ça c'est votre force naturellement, qu'une administration de l'exécutif n'a pas dans une négociation de son contrat d'administration, c'est que si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas signer. Hein. Donc il faudra trouver une solution. Donc vous avez là naturellement un moyen, un levier qui est réel. Voilà, je vous remercie pour votre attention.